VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington, Chérubin Dorsil et Morgane Guiriec.
Bonsoir à tous, bienvenue à cette édition du mardi 29 décembre 2015. À la une ce soir.
Burkina Faso, transfert historique du pouvoir un peu plus d'un an après la chute du régime Compaoré.
Un jour nouveau se lève au Burkina Faso, chargé d'espoir pour un lendemain meilleur.
Le nouveau président burkinabé, Marc-Christian Kabore. Finalement, la Guinée est déclarée libre d'Ebola.
La Guinée entre maintenant dans une période de surveillance renforcée de 90 jours, a indiqué l'OMS.
J-1 en Centrafrique pour les élections présidentielles et législatives. Les craintes persistent quant à la sécurité du vote et des votants.
Je suis très très content. C'était l'idéal d'aller à l'élection parce que si on restait comme ça, on n'allait pas trouver la solution.
Malédiction pour les producteurs de l'or noir, fin de l'État-providence.
Les pays producteurs, la plupart, pour les dépenses du gouvernement, l'argent pour ces dépenses sort des revenus de la vente de pétrole.
Nous parlerons ce soir de l'impact de la chute des prix du pétrole.
États-Unis, pas d'action en justice contre le policier blanc ayant abattu le jeune noir Tamir Rice. Nous aurons les réactions.
Dans moins de 10 minutes, l'économie et les sports, mais d'abord le journal.
Roch Marc-Christian Kabore, le nouveau président élu du Burkina Faso, a été investi aujourd'hui. C'est donc la fin du régime de transition qui a suivi la chute de l'ex-président Blaise Compaoré en octobre 2014. Plusieurs chefs d'État africains ont fait le déplacement à Ouagadougou pour cet événement historique. Issa Napon.
Oui, un moment véritablement historique à double titre parce que nous sommes en train de vivre une alternance appelée tous nos voeux depuis plus d'une vingtaine d'années. Et ensuite parce que pour la première fois, un président civil remet le pouvoir à un autre président civil démocratiquement élu. Cela, nous ne l'avons jamais vu au Burkina Faso. Et je crois que Roch Marc Kabore a pris la mesure de l'immensité de la tâche qui lui reste à accomplir.
Qu'est-ce que vous avez retenu du discours de Roch Kabore?
Un discours réellement fédérateur. Il a tenu à saluer le combat de la jeunesse burkinabé. Il a promis instaurer un dialogue afin que tous les Burkinabés se comprennent. Il a justement mis en garde contre tout acte d'incivisme en rassurant que force va rester à la loi.
Issa Napon, notre correspondant à Ouagadougou. On reviendra bien sûr sur cette prestation de serment en seconde partie d'édition.
Présidentielle au Niger, l'ex-chef d'État Mahamane Ousmane a été investi candidat à l'élection de février 2016 par le mouvement nigérien pour le renouveau démocratique, le MNRT. Âgé de 66 ans, Mahamane Ousmane a été le premier président démocratiquement élu du Niger en 1993. Il a été renversé par un coup d'État militaire en 1996.
2 ans après le premier cas d'Ebola en Afrique de l'Ouest, la Guinée est officiellement débarrassée de l'épidémie. Bagassi Koura.
L'OMS a annoncé ce mardi la fin de la transmission d'Ebola en Guinée. 2 périodes de 21 jours, la durée maximale d'incubation du virus, se sont écoulées depuis le second test négatif sur le dernier patient guéri. La Guinée entre maintenant dans une période de surveillance renforcée de 90 jours, a indiqué l'OMS, rappelant que le risque persiste au-delà de ces 42 jours en raison de la subsistance du virus dans certains liquides corporels, en particulier le sperme, où il peut survivre jusqu'à 9 mois. Cette épidémie d'Ebola, la plus grave depuis l'identification du virus en Afrique centrale en 1976, a fait plus de 11 300 morts sur quelques 29 000 cas recensés. Un bilan toutefois sous-évalué selon l'OMS. Les 3 pays les plus touchés sont la Guinée, qui compte officiellement 2 536 morts pour 3 804 cas, la Sierra Leone, déjà déclarée exempte de transmission le 7 novembre, et le Libéria, où la fin de l'épidémie a été annoncée 2 fois en mai et septembre dernier, avant de nouvelles résurgences.
En RCA, les Centrafricains sont attendus aux urnes demain, mercredi 30 décembre. Ils vont choisir leur nouveau président, ainsi que les députés de la nation. Un scrutin très attendu, mais placé sous haute surveillance. De Mongui, Freeman Sipila nous en dit plus.
À un jour de ces élections, les mises en garde se sont multipliées le long de la journée. Le ministre de la Sécurité publique, le général Pierre Chrysostome Sambia, a rassuré les électeurs que toutes les dispositions nécessaires sont déjà prises pour favoriser le bon déroulement du scrutin. De son côté, le ministre de la Défense nationale, Joseph Bindoumi, a indiqué que la sécurisation de cette échéance dans les zones dites sensibles sera assurée par des éléments des forces armées centrafricaines en faction ces derniers temps sur les postes statiques dans la capitale. À Bangui, justement, la MINUSCA a renforcé son dispositif sécuritaire, notamment dans les zones où le vote référendaire du 13 décembre avait été menacé. Une rencontre sur la sécurisation de ces élections a réuni ce mardi à Bangui la communauté internationale et les candidats à la présidentielle. La communauté internationale a exhorté chaque parti à contribuer à la réussite de ce processus afin de sortir le pays de l'ornière. Freeman Sipila, Bangui, VOA Afrique.
Enquête sur l'accident d'hélicoptère du Premier ministre béninois Lionel Zinsou. Selon les premières conclusions, l'incident survenu samedi est dû à une erreur humaine. Le Premier ministre béninois est sorti indemne de cet accident d'hélicoptère survenu alors qu'il s'apprêtait à atterrir à Djougou, dans le nord-ouest du Bénin.
Génocide rwandais, Onesphore Wabukombe a été condamné par un tribunal allemand à la réclusion à perpétuité. L'ancien maire de Mouvumba, âgé de 58 ans, a été jugé pour son rôle dans le massacre de plus de 400 Tutsis réfugiés dans une église en 1994.
Tragédie dans la partie ougandaise du lac Victoria. Au moins 13 personnes qui y nageaient se sont noyées au passage de fort courant. Les victimes en vacances étaient dans la région pour fêter Noël.
Gambie, le Parlement a adopté une nouvelle loi réprimant pénalement l'excision. Cette pratique est donc passible de peine de prison pouvant aller jusqu'à 3 ans d'enfermement et une amende de 1 300 $.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Dans le reste du monde, dans le nord-ouest du Pakistan, au moins 26 personnes ont été tuées et des dizaines d'autres blessées lorsqu'un kamikaze taliban portant une bombe a foncé en moto sur les bureaux d'un organisme gouvernemental à Mardan, ont indiqué les responsables. Cet attentat, souligne l'AFP, montre que les talibans pakistanais ont toujours la capacité de mener des attaques d'ampleur en dépit d'une offensive militaire majeure en cours contre leur fief, qui a entamé leur capacité d'action, selon les experts.
Le français Sharaf al-Mouadane, combattant du groupe État islamique, lié directement au djihadiste belge Abdelhamid Abaoud, instigateur présumé des attentats de Paris, a été tué en Syrie. C'est ce qu'a affirmé le colonel américain Steve Warren, porte-parole de la coalition anti-Daesh. Mouadane, qui a été tué le 24 décembre, compte parmi 10 autres responsables djihadistes tués au mois de décembre, a précisé le colonel Warren.
Deux jeunes filles russes ont été condamnées aujourd'hui à plus de 5 ans de prison pour avoir envoyé de l'argent à l'organisation État islamique, a-t-on appris auprès du tribunal. Environ 2 900 Russes se battent dans les rangs de l'organisation en Syrie et en Irak, affirment les services de renseignement russes. La Russie a entamé le 30 septembre des frappes aériennes en Syrie.
La Cour suprême d'Israël a condamné aujourd'hui Ehud Olmert à 18 mois de prison ferme pour corruption, faisant de cette figure politique le premier ex-chef du gouvernement israélien à se retrouver derrière les barreaux. Monsieur Olmert devra de nouveau se présenter devant la Cour suprême le 19 janvier pour un jugement en appel dans une autre affaire.
Nervosité aux États-Unis où de nombreux Américains restent indignés par la décision de la justice de ne pas inculper un policier blanc qui avait abattu en novembre 2014 dans l'Ohio un garçon noir de 12 ans. La victime, Tamir Rice, tenait un pistolet factice et pendant le week-end à Chicago, la police a tué 2 autres noirs, un étudiant de 19 ans et une mère de famille de 55 ans, en répondant à une situation dite de « trouble domestique » entre guillemets. Idrissa Seloudia fait le point.
Le maire de Chicago, Rahm Emanuel, a décidé de couper court à ses vacances à Cuba pour retourner chez lui. La fusillade de samedi n'a fait qu'accroître les tensions dans sa ville où des manifestants ont continué à exiger sa démission. Après que la justice eut formé les autorités locales à publier une vidéo montrant un policier tiré 16 fois en 2014 sur Laquan McDonald, un adolescent noir de 17 ans. Dans le double incident de samedi, la race du policier n'a pas été divulguée. Concernant le cas Tamir Rice dans l'Ohio, le bureau du procureur avait conclu un an après les faits que la décision du policier de tirer était justifiée car Tamir Rice pouvait être pris comme une menace. Le grand jury s'est donc rangé à cet avis Déçue, la famille de la victime a demandé au ministère fédéral de la Justice de diligenter sa propre enquête. Selon la scène filmée par une caméra de surveillance, deux policiers en patrouille étaient intervenus à Cleveland, dans le centre de la ville, alertés par un appel faisant état d'une personne armée sur place. L'un des agents avait très vite ouvert le feu, tuant le jeune Tamir Rice de deux balles dans l'abdomen. Cette affaire avait ravivé l'indignation de nombreux Américains qui manifestaient depuis plusieurs semaines contre l'impunité dont bénéficiaient, selon eux, certains policiers blancs impliqués dans la mort de Noirs.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com.
L'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est la Minute Éco avec Idrissa Seydoudia.
Au Cameroun, le ministère des Travaux publics, avec une enveloppe de 403,9 milliards de francs CFA, se taille la plus grosse part dans la répartition du budget 2016, dont la loi vient d'être promulguée par le président camerounais Paul Biya. Ce département va poursuivre le programme de construction de plusieurs axes routiers et doit en outre faire des projets d'érection d'infrastructures liés à l'organisation des Coupes d'Afrique des Nations, CAN, de football 2016, dames, et 2019, messieurs, rapporte l'agence APA. Toujours selon la même agence, les réformes entreprises en Côte d'Ivoire par le président Alassane Ouattara depuis son arrivée au pouvoir en avril 2011 ont abouti mi-décembre à l'élection de la Côte d'Ivoire au Millennium Challenge Corporation, un pas supplémentaire vers l'émergence à laquelle le pays aspire à l'horizon 2020. Depuis 2011, la relance économique de la Côte d'Ivoire est en net progrès. La Chine va débourser plus d'1,3 milliard d'euros, soit 850 milliards de francs CFA, pour la rénovation du tronçon malien de la ligne de chemin de fer Bamako-Dakar, une voie stratégique pour les échanges entre le Sénégal et le Mali, mais en mauvais état, a appris l'AFP auprès du ministère malien des Transports.
Nous voilà pour la Minute Éco. Merci Idrissa.
Comme toujours, ce thème annonce la page sport, présentée ce soir par John Lyndon. Salut John.
Bonsoir.
Au Cameroun, l'on cherche toujours un entraîneur pour les Lions Indomptables.
Effectivement, un appel à candidature a été lancé par la Fédération camerounaise de football et la presse fait savoir qu'Alain Gérès fait figure de favori alors que Claude Leroy serait out. Nous avons posé la question à Martin Kamumim. Il est journaliste sportif et directeur de Radio Sport Info à Douala.
Évidemment, je peux dire qu'il est rentré contre toute attente parce que le rôle était prédestiné dans les médias à venir au Cameroun puisqu'il avait démissionné de façon fracassante au Congo. Et après, je ne peux pas non plus dire que c'est un acquis parce qu'il y a derrière également beaucoup de lobbies qui s'affrontent parce que je crois que le candidat de Pouma s'appelle Rajevac et donc le gouvernement est, selon mes informations, absolument un entraîneur français. Et donc, cette bataille de réseau, je crois qu'elle est en train peut-être de s'estomper. On verra d'ici là, mais de toute façon, je dirais que ça a quand même pris une longueur d'avance par rapport à tout ce qui était shortlisté. Et donc là, il y a également un Camerounais du nom de Marius Omok qui, de toute évidence, aussi risque d'être l'adjoint de Gérès, comme Omam était pressenti pour être l'adjoint de Claude Leroy. Il y a aussi Hervé Renard, Didier Six et Rajevac. Le dernier mot, en tout cas, tout n'est pas encore terminé. Il y a encore beaucoup de jeux en cours, donc on attend de savoir.
Le journaliste Martin Kamumem. Alors, John Lennon, le Burkina Faso, lui, a déjà choisi son entraîneur de football et c'est Paulo Duarte.
Oui, le technicien portugais de retour va donc retrouver le banc de ses succès. C'est sous sa houlette que les étalons avaient franchi un palier, se qualifiant pour les CAN 2010 et 2012. Le groupe, entièrement façonné par celui qui fut aussi coach du Mans, atteignit la finale de l'édition 2013 sous la direction de Paul Put. Depuis son départ de Ouagadougou, Duarte, âgé de 46 ans, a en revanche collectionné les échecs au Gabon comme en Tunisie.
Transfert, Watford sera actuellement en discussion avec Emmanuel Adebayor.
Watford pourrait relancer la carrière d'Emmanuel Adebayor sans club depuis son départ de Tottenham en septembre dernier. Les Spurs ayant résilié son contrat, l'attaquant togolais, 31 ans, 56 sélections, discute actuellement avec les Hornets.
Voilà, merci pour cette page sport. John Linden.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Morgane Guériac et Chérubin Dorcy dans votre compagnie. Place au dossier du jour. Première escale, le Burkina Faso.
Roch Marc Christian Kabore, vainqueur de l'élection présidentielle du 29 novembre, a été installé ce mardi dans ses fonctions de chef de l'État pour un mandat de 5 ans. La cérémonie d'investiture a été rehaussée par la présence de 9 chefs d'État venus du Gabon, du Mali, du Niger, du Togo, du Bénin, du Ghana, du Sénégal, de Côte d'Ivoire, de Guinée-Conakry et de plusieurs délégations de haut niveau venues d'Europe et des États-Unis. Le nouveau président du Burkina Faso s'engage à réconcilier tous les Burkinabés dans la paix et la justice. De Ouagadougou, le reportage de Zoumana Wonogo.
C'est dans un palais des sports de Ouagadougou plein à craquer que le nouveau président a été investi par la formule du serment.
Je jure devant le peuple burkinabé sur mon honneur de préserver, de respecter, de faire respecter et de défendre la constitution et les lois, de tout mettre en œuvre pour garantir la justice à tous les habitants du Burkina Faso.
Christian Kabore, le conseil constitutionnel vous donne acte de votre serment, vous déclare installé dans vos fonctions de président du Faso et vous renvoie à l'exercice de vos fonctions.
En le renvoyant à ses hautes fonctions, le président du conseil constitutionnel lui a prodigué des conseils. Suivons les conseils du président Kassoum Kambou.
À son Excellence, Monsieur Roch Marc Christian Kabore, président du Faso, à compter de ce jour, vous êtes le président du Burkina Faso. Vous cessez d'être le chef partisan pour devenir le président de tous les Burkinabés, et ce pour un mandat de 5 ans. Soyez en tout temps fidèle au terme du serment que vous venez de prononcer.
En 55 ans d'indépendance, le Burkina Faso a connu 9 chefs d'État, et c'est la première fois que l'on a pu assister à une passation de charge entre deux présidents civils. C'est ce qu'a noté le président de la transition, Michel Kafando, avant de dire ceci au nouveau président du Faso. On écoute Michel Kafando.
Monsieur Roch Marc Christian Kabore, nouveau président du Faso, je voudrais lui souhaiter tout le bonheur et le succès possible. Je forme des vœux sincères pour la réussite de son mandat. J'ai déjà assuré, président Kabore, président de tous les Burkinabés, de mon entière disponibilité à l'accompagner s'il en exprime le besoin. Je lui ai également recommandé de tenir compte des sillons tracés par la transition pour une meilleure intégration des jeunes et des femmes dans le processus du développement national.
En réponse, voici ce que le nouveau président Roch Marc Christian Kabore a dit.
Un jour nouveau se lève au Burkina Faso, chargé d'espoir pour un lendemain meilleur. Mon programme intitulé « Bâtir avec le peuple, un Burkina Faso de démocratie », de progrès économique et social, de liberté et de justice, devenu par l'onction populaire le programme du président de tous les Burkinabés, ambitionne de répondre à cette quête de justice, de transparence, de démocratie et de prospérité partagée exprimée par toutes les composantes de notre nation. La conciliation nationale en sera le socle, la paix le moteur, la vérité, la justice, la transparence, les adjuvants essentiels pour construire ensemble dans la durée une nation forte, fière, prospère et intègre.
Passer de la 4e à la 5e République, tel est le vœu du président Roch Marc Christian Kabore, afin de réussir sa mission de Burkina nouveau. Zoumana Wonogo, Ouagadougou, VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique au Burkina Faso sur Ouaga FM, 105.2 à Ouaga et 101.1 à Bobo. La Voix de l'Amérique, c'est aussi sur Horizon FM, Awaga, Bobo, Koudougou, Wayigouya et Fada.
Cap sur la République centrafricaine. Cette fois-ci, le pays est bel et bien engagé dans la dernière ligne droite avant les élections générales de ce 30 décembre qui combinera la présidentielle et les législatives. À la veille de ce scrutin majeur, quel est le sentiment des Centrafricains et quels sont leurs espoirs, quelles sont leurs attentes à Bangui? Notre envoyé spécial est Tatiana Mosso.
Je suis très très content
C'était l'idéal d'aller à l'élection parce que si on restait comme ça, on n'allait pas trouver la solution. On se tend vers une ère et cette ère est celle de la paix, de la réconciliation.
Est-ce que demain vous allez aller voter et si oui, quelles sont vos attentes?
Oui, demain j'irai voter et je suis vraiment ravi d'y aller voter. Car c'est le devoir d'un citoyen. Je suis tellement ravi car je veux vraiment que notre pays sorte de cette crise où nous sommes actuellement.
Demain, il y a finalement le premier tour de l'élection présidentielle et législative. Est-ce que vous êtes contente et quelles sont vos attentes?
Oui, en fait, je suis très contente concernant les élections de demain. Et mes attentes, j'aimerais ça, ce que ça se passe dans la légitimité et que ça se passe pas par fraude. Et que cela se fait dans la norme des choses et qu'il n'y aura pas des troubles demain.
Et qu'est-ce que vous attendez du prochain président?
Bon, ce que moi j'attends du prochain président, c'est que une fois élu, qu'il vienne faire son travail et que la paix soit dans le pays. La sécurité, qui dit la paix, ça concerne la sécurité. Que le peuple ait la libre circulation de s'y en aller partout dans le pays.
Demain, jour de vote dans toute la Centrafrique. Il n'y a pas de nouveau report. Qu'est-ce que vous en pensez en tant qu'étudiant? Est-ce que vous êtes content d'enfin pouvoir aller voter?
Je pense pour ma part que je suis très très content. Et ça, c'est un début pour nous, les étudiants, dès maintenant. Et demain, je sais que c'est un début de la République centrafricaine. Nous sommes tous joyeux. Et
qu'est-ce que vous attendez du prochain président?
Ouais, ce que moi j'attends du prochain président, ce que nous attendons, premièrement, c'est la sécurité et le retour de la paix. Et maintenant, il faut qu'il jette un coup d'œil dans les éducations à Bazès et au niveau de l'université.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum ce jeudi. Retour sur la République centrafricaine au lendemain du premier tour de la présidentielle et des législatives. La RCA peut-elle tourner la page? Et dites-nous ce qui vous a marqué en 2015 et ce que réserve 2016 pour le monde, l'Afrique en particulier. Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique. Washington Forum ce jeudi à 19h30.
Et nous partons maintenant en République démocratique du Congo. Le gouverneur du Sud Kivu a été interpellé par l'organe délibérant pour s'expliquer sur la gestion de la province. La mesure a été initiée par le député Abamungu Mirindi. Correspondance de Ernest Mouero.
Ils sont des centaines, les enfants âgés de moins de 18 ans qui sont utilisés à Bukavu dans des travaux de construction des maisons. Et pour la plupart, la situation d'extrême pauvreté de leur famille les oblige à faire ces travaux lourds. Madame Julienne Mouchagaloussa, secrétaire générale de l'Association des femmes juristes congolaises antennes du Sud Kivu, explique.
La plupart, ce sont des enfants qui sont séparés de leurs parents, des enfants orphelins. Quand la famille n'est pas à mesure de payer les études, cette catégorie-là d'enfants qui vont maintenant chercher de quoi payer les études et même de quoi faire vivre leur famille. Et quand il va tomber malade, il n'y a personne qui va les soigner.
Sur les terrains, la réalité est encore plus triste. Ici, en Gouba, par exemple, dans la commune d'Ibanda, je me retrouve sur un vaste chantier de construction où, comme des fourmis en plein ouvrage, une soixantaine de gamins transportent de grosses quantités de béton, mélangent le ciment et le sable, suent à grosses gouttes, l'air inconscient du poids des efforts qu'ils déploient pour moins de 3 dollars le jour.
Je fais le travail des bétonniers. Je transporte du sable, trouver des quoi acheter des objets classiques.
J'ai fait aussi ce travail. Nous construisons beaucoup de maisons ici à Bukavu. J'ai commencé ce travail à l'âge de 10 ans. Cela me permet de me procurer les habits et les chaussures. J'ai l'espoir de devenir un jour un maître maçon.
Moi, je n'ai jamais trouvé de l'intérêt dans ce travail. Je n'ai pas de choix. Je dois m'acheter de quoi grignoter.
Ces gosses travaillent pendant plus de 10 heures le jour et le soir, emportés par la fatigue et le sommeil, ils doivent faire 2 heures de marche à pied pour rentrer chez eux. Pour Christian Douma, fondateur d'une organisation de la société civile dénommée Bukavu Force Vive pour la paix. Il s'agit ni moins ni plus d'une nouvelle forme d'esclavagisme. Il est temps d'arrêter l'hémorragie et restaurer la dignité de ses enfants.
Je dois interpeller la conscience de tout et chacun, pourquoi pas autorités politiques ou administratives, du fait qu'on ne peut pas payer 15 dollars à un adulte, mais on paye 3 dollars à un enfant. Quelqu'un qui a 8 ans et transporte déjà les histoires de 50 kilos, de 25 kilos, ça n'honore pas. L'homme là, l'adulte qui l'exploite, c'est en vertu de quoi? Les acteurs de la société civile réclament que les droits de ses enfants soient respectés, afin que ses enfants puissent grandir. Et pourquoi pas, revoir un jour de diriger ce pays et non de rester comme des esclaves.
Mais est-ce que cette situation de pauvreté qui traverse ses enfants autorise le tenancier des chantiers de construction de les exploiter au point de les priver de leur enfance?
Pas du tout.
Maître Julienne Mouchagaloussa.
C'est interdit le travail des enfants. Il y a l'article 57 de la loi sur la protection de l'enfant qui nous dit que l'enfant doit être protégé contre toute forme d'exploitation. Mais aussi, il faut montrer aux familles que l'enfant n'est pas là pour faire vivre la famille. L'État doit protéger les enfants.
Ernest Mouero Bukavu, VOA Afrique.
Retrouvez La Voix de l'Amérique en RDC sur Radio Mungano, à Beni, au Nord Kivu, sur 95.10 FM.
C'est définitivement la période des vaches maigres pour les pays pétroliers. Victimes de l'effondrement record des cours de l'or noir, ils sont obligés de prendre des mesures peu populaires. Ainsi, l'Arabie Saoudite, premier exportateur mondial, a augmenté de 80% les prix des produits pétroliers et de 70% le prix de l'électricité, en plus d'une vaste réforme pour limiter la dépendance vis-à-vis du pétrole. Pour un éclairage sur cette situation, j'ai joint le professeur d'économie Michael Kivane. Il enseigne à l'université Santa Clara en Californie.
Les pays producteurs, la plupart, pour les dépenses du gouvernement, l'argent pour ces dépenses sort des revenus de la vente de pétrole. Maintenant que les prix tombent, le gouvernement n'a plus le même revenu qu'avant. Donc, ils sont obligés de baisser leurs dépenses internes pour les services qu'ils offrent aux citoyens. Et donc, par exemple, plusieurs pays exportateurs de pétrole, ils ont un prix de pétrole interne beaucoup réduit à cause des subventions qu'ils offrent aux citoyens. Donc, maintenant, ils seront obligés de lever ces subventions, augmenter le prix.
Est-ce que cela ne risque pas aussi d'avoir des ramifications sur le plan politique?
Oui, je suppose dans certains pays, nous pouvons voir au Venezuela, par exemple, le gouvernement de Nicolas Maduro va avoir des gros problèmes à cause du déficit budgétaire que le gouvernement va continuer à avoir à cause de la chute des prix du pétrole. Nous pouvons voir aussi au Nigeria, même chose, tous les citoyens maintenant du Nigeria, ils peuvent moins acheter des produits importés à cause du changement du taux de change.
Quel rôle ont joué les Saoudiens dans la baisse des cours du brut?
Je pense que c'est un rôle important, mais je pense que c'était pas eux qui ont voulu cette chute. La chute a été causée, je pense, surtout par l'augmentation de production pétrolière ici aux États-Unis. Le fracking a pu faire des États-Unis un pays exportateur de pétrole maintenant et de gaz naturel. Donc c'est ça un peu. Après, on peut voir aussi l'augmentation de production en Irak après les années de guerre. Et en même temps, vous savez, les pays industriels, les pays riches, chaque année, ils adoptent de nouvelles technologies qui diminuent leurs besoins pétroliers.
Alors, j'ai posé la question parce que certains pensent que les Saoudiens et leurs alliés de l'OPEP ont cru pouvoir affecter négativement le fracking ici aux États-Unis. Les petites compagnies ont beaucoup souffert de cette baisse.
Oui, ça c'est sûr. Il y a plusieurs compagnies qui ont arrêté les opérations ici aux États-Unis. Mais pour les grands terrains de fracking, de gaz naturel, ça continue, la production va continuer.
Michael Kivane, professeur d'économie à l'université Santa Clara en Californie.
C'est la fin de cette édition. À la mise en onde, Georges Léonard Sagnot. Présentation chez Robin Dorcier et Morgane Guériec.
Ainsi va Le Monde aujourd'hui. On continue la conversation sur Facebook et n'oubliez pas de visiter notre site internet voaafrique.com pour plus d'infos 24 heures sur 24.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako sur 102 FM, Raga FM Kinshasa, Soleil FM Conakry, 92.3 FM, Radio Wentanga, Wayeguya Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur ondes courtes, Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique.